Salut à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio MDM, Electric Troubles Radio Show numéro 1578. Aujourd'hui, il va y avoir un bon élément de choix avec l'interview du groupe Koigans, formation Helvet, avec un excellent disque qui se profile à l'horizon. Alors, nous sommes un peu en avance puisque ce sera pour le 22 novembre, mais voilà, on est très très content de les avoir aujourd'hui au téléphone. Il y aura deux membres du groupe. Donc voilà, tout ça, ce sera tout à l'heure. Patientez. Nous allons commencer par demain, formation rennaise. Donc c'est l'album de la semaine, vous l'avez bien compris. C'est le numéro 2, en fait, voilà. Donc avec ce petit sigle là, juste devant le 2, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, tiens. Nuire sans regret, c'est le titre du morceau. Voilà, moi j'ai bien aimé, donc je vous invite à découvrir ce groupe. C'est disponible notamment sur Internet. Bien sûr, il y aura, comme vous savez, deux morceaux. Samedi, dans la playlist Electric Troubles, avec plein de choses bien choisies aussi, forcément, puisque c'est moi qui les ai choisies. Donc, on écoute demain, et puis, mais aujourd'hui, bien sûr, évidemment. Et dans la foulée, on se retrouve avec nos deux interviewés de Koigans. C'est parti. Donc un premier morceau dans Electric Troubles Radio Show, il s'agissait du groupe Demain, qui est un groupe rennais, donc c'est l'album de la semaine. Nuire sans regret, c'est le titre du morceau, et c'est le titre du disque, c'est Demain, numéro 2, voilà, tout simplement. Donc nous aurons, comme promis, ce samedi, aussi dans la playlist Electric Troubles, deux autres morceaux de cette formation rennaise que je vous invite à découvrir sur Internet. Vous trouverez forcément du son, c'est sur Bandcamp, me semble-t-il. Nous sommes donc, comme promis, avec deux membres de Koigans. C'est bien comme ça que ça se prononce, messieurs, Luc et Jonah.
Tout à fait.
D'accord, je le prononce bien, mais tant mieux. Alors, un bien le bonjour à vous. C'est une première fois donc, que je vous ai au téléphone dans Electric Troubles. Alors, forcément, comme c'est une première fois... Et pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, vous présenter tous les deux, mais aussi le groupe dans sa globalité, s'il vous plaît?
D'accord. Moi, je m'appelle Jonathan, je fais de la guitare dans le groupe, je m'occupe aussi un petit peu de tout ce qu'il y a autour du groupe. Mmh. Et puis Cold Guns, c'est un projet qu'on a débuté en 2011. Voilà. À l'époque, on jouait les trois de base du groupe. On jouait dans un groupe allemand de metal, avec qui on a beaucoup tourné. Puis en tournée, ben, on s'est dit qu'on allait monter un projet pour rigoler. Et ce projet pour rigoler, c'est devenu Cold Guns. C'est devenu une espèce de groupe de punk, hardcore, noise qui maintenant régit un petit peu nos vies. Voilà.
D'accord. Et les deux autres membres ?
Eh bien, celui qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Louis Jucker, qui est le chanteur. Mmh. Et puis, il y a également récemment, il y a 4 ans, Kevin Galland qui nous a rejoint, qui fait de la basse et du synthé, parce qu'avant, on était en formation guitare, batterie, voix.
D'accord.
Et puis, eh bien, un autre membre original qui est présent avec nous, Luc S.
Voilà, c'est ça. Moi, c'est Luc, et je joue donc de la batterie au sein de ce groupe. Et puis, voilà, je ne vais pas répéter ce que Jonah a dit. Effectivement, c'est un peu le point central de nos vies musicales et de nos vies tout court, ce groupe.
D'accord. Alors, donc, on abordera tout à l'heure, évidemment, le nouvel album qui se profile. Mais est-ce que vous pourriez me dire un peu quels ont été les moments jusqu'à maintenant, les moments importants dans l'histoire du groupe ? Voilà, qu'est-ce qui vous a fait avancer, qu'est-ce qui vous a aidé à vous trouver une personnalité, un style ?
Wow.
Ça fait beaucoup.
Disons que c'est un peu un truc qui est un peu né par accident, tu vois, dans le sens où moi j'ai un peu écrit 3 morceaux une fois. Je passais un mois à New York et puis j'ai acheté une guitare, puis j'ai écrit 3 morceaux que j'ai envoyés ensuite à Luc et Louis. Ouais. Un petit peu à l'époque influencé, type on était beaucoup dans les trucs Dillinger Escape Plan, Converge et tout ça. Mmh. Et puis c'est un peu parti de là, quoi. Et puis, très vite, en rentrant en Suisse, on a commencé à nous programmer, quoi, dans des clubs de plus en plus. Puis c'est droit le moment où on a aussi monté notre propre label, Humus Records.
D'accord, c'est déjà à cette époque-là.
C'est carrément, en fait, on a monté le label pour sortir un des premiers EP de Cold Guns.
D'accord.
C'était même censé être un label que pour Cold Guns à la base. Alors là aussi, il y a eu un autre accident qui fait que tout d'un coup, c'est devenu un vrai label.
Ouais.
mais voilà, puis en fait, très très vite, on a beaucoup joué. Et puis, tu vois, notre deuxième concert, c'était en première partie de Dillinger Escape Plan en Suisse. Puis en fait, à partir de là, on a commencé à tourner. Et puis en fait, on s'est jamais arrêté, quoi. Un peu de choses près.
D'accord.
Enfin, voilà, ça c'est vraiment pour la globalité. Je ne sais pas si Luc, toi, tu as un peu des moments marquants.
Ça aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi la rencontre entre Jonah, Louis et moi. On vient tous d'une petite ville qui s'appelle La Chaux-de-Fonds en Suisse, qui est vraiment qui a une belle activité culturelle, mais qui est quand même un petit endroit un peu paumé. Et puis, en fait, notre rencontre aux trois. Premièrement en tournant avec ce groupe allemand beaucoup, et puis ensuite en continuant, c'était aussi, en tout cas personnellement, la possibilité en fait de vraiment, vraiment se consacrer à la musique. Moi, je me suis beaucoup cherché pendant longtemps, et puis la rencontre avec ces personnes, ça a été de, en fait, vraiment devenir quelque chose, construire un projet par amitié et puis par passion de la musique, et puis en venant pas forcément de Paris ou de Los Angeles ou de New York, mais vraiment d'un coin dont tout le monde littéralement se fout pas mal, en fait, quoi.
Ok. On va s'écouter un premier morceau, si vous le voulez bien. C'est We Missed the Parade, donc extrait de cet album à venir, Odd Love. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur ce premier morceau ?
Écoute, c'est une petite anecdote peut-être. C'est que nous, ce titre, quand on l'a enregistré, on pensait que c'était un peu un titre, je veux pas dire gag, mais un titre un peu auquel qu'on trouvait marrant, puis qu'on pensait plus mettre en B-sides, quoi, tu vois. Et puis en fait, les gens avec qui on travaille, quand on leur a envoyé un peu ces titres, ils étaient là, ah mais ça c'est absolument, il faut que ce soit un single, il faut que ça ouvre l'album, puis nous on est un peu tombés des nues. Et en fait, tout d'un coup, ça nous a apparu aussi... Enfin, je sais pas si ça nous a paru évident, mais on l'a fait. Puis finalement, c'est un morceau maintenant qu'on joue en live, puis qui représente, qui en substance raconte que, voilà, que en gros on est vieux, puis que on sait pas trop si on a pas raté le train ou pas, mais qu'on va continuer à faire les choses comme ça, quoi.
D'accord.
Peu importe.
Et comment vous expliquez le fait que vous vouliez éventuellement le voir comme une phase B? Qu'est-ce que vous aviez, vous, perçu dedans au départ ou pas perçu et que finalement, tout le monde a perçu derrière ?
Jonah ?
Ouais, vas-y.
Parce qu'en fait, il était vraiment par rapport au travail qu'on avait fait sur les autres nouveaux morceaux, qui était vraiment aller chercher un peu des différentes rythmiques, des différentes mélodies, des différentes choses. Celui-là qui est vraiment foncièrement punk hardcore, je veux dire, c'est du 10 beats, c'est couplet-refrain, il y a des gros riffs, il y a des breakdowns avec des gros riffs derrière. Ça, on avait quand même déjà pas mal fait le tour de ce genre de choses. Du coup, effectivement. Pour souligner ce que disait Jonah tout à l'heure, quand on l'a écrit, on s'est dit c'est vraiment un morceau fun. En fait, c'est cool de le jouer, mais on a mis un petit peu en pause tout le côté développement créatif, ouais. Aller dans des territoires inconnus qu'on avait beaucoup utilisé pour le reste des morceaux. Donc effectivement, pour nous, c'était plutôt un morceau fun, blablabla, qu'on pourrait placer dans une setlist live. Et quand on a fait écouter les morceaux à nos partenaires, c'est-à-dire notre management et puis des gens autour, il est tout de suite sorti du lot comme en fait c'est un très bon premier morceau pour l'album, puis du coup c'est devenu un peu malgré lui, et c'est très bien comme ça, un peu un anthème de ce disque, vu que c'est le premier morceau de l'album qui fait maintenant vraiment partie entière, c'est un single, et puis on le joue déjà en live, et puis du coup maintenant c'est intégré comme ça, mais on s'attendait pas vraiment nous-mêmes en l'écrivant à ce que ça soit perçu de cette manière par les gens avec qui on travaille en fait.
Ouais, peut-être qu'en fait vous avez tout simplement vous un peu plus avancé dans votre logique et vos envies que les gens qui sont autour, non? Je sais pas.
C'est-à-dire que pour nous, il incarnait vraiment un Colguns d'avant, quoi. C'est pour ça qu'il nous a un peu marré, tu vois. Moi, c'est un retour que j'ai eu aussi de gens un peu plus proches, aussi proches du groupe, mais de plus d'auditeurs, tu vois, qui l'ont pu l'écouter. Puis c'était là, c'est bien Colguns vintage, quoi.
Ok.
On est très contents.
D'accord. On va écouter ce morceau, donc We Missed the Parade. C'est parti. On se retrouve juste après. We'll be right back. Voilà, c'était donc un premier morceau de Coil Guns, c'est donc extrait de Odd Love, le nouvel album. Est-ce que vous pourriez me décrire, selon vous, ce qui est, bon, je suis toujours un petit peu dans l'ancien temps, ce qui faisait un peu les forces et les limites de vos premiers disques, alors je parle des albums, hein, on ne va pas partir de suite sur les splits, j'aurais juste une petite question après à vous poser, mais sur les albums, qu'est-ce qui faisait force et faiblesse de ces disques-là?
Bon, je pense que, en tout cas, sur les trois premiers albums, ce qui a été la force et la faiblesse, la force au début et la faiblesse à la fin, à mon avis, c'est d'avoir un peu tout fait nous-mêmes systématiquement. C'est quand même un peu péjoratif de dire que c'était une faiblesse, quoi. Je pense qu'on a vraiment construit l'identité de ce groupe et qu'on s'est construit en tant que personne et en tant que groupe, tu vois, à travers le fait qu'on a fait que d'apprendre en faisant, disons.
D'accord.
Puis chaque disque, on les a fait un petit peu comme ça, tu vois. Puis peut-être le premier album, on l'a fait quand même dans un studio en Suisse, mais la volonté, c'était de tout faire en une prise, en live, par exemple, tu vois. Donc, à travers ça, ben, avec Luc, on a passé quand même du temps à répéter, puis à être prêt à arriver en studio. Puis après, le deuxième album, on a construit un studio carrément dans une maison en Allemagne pour l'écrire et le mixer nous-mêmes sur place aussi. Le troisième disque, on a loué un studio, mais on a aussi tout fait l'engineering et l'enregistrement et le mix. Et ça, je pense clairement que ça nous a donné les outils pour savoir qu'on avait envie de peut-être bosser avec quelqu'un d'autre là sur Odd Love, quoi. Voilà. Je sais pas, Luc, est-ce que toi, si t'as d'autres choses à raconter là-dessus?
Ouais, tu synthétises bien ça. Effectivement, il y avait aussi un côté pendant ces premiers enregistrements qui étaient très urgents. Du coup, effectivement, on avait fait ce premier album avec quelqu'un, avec un copain à nous. Et puis ensuite, on voulait de toute façon avoir toutes les clés en main. Et puis vu qu'il y avait des gens dans le groupe Louis qui avait déjà des capacités d'ingé son, de prise de son, de mix, de tout ça, ben, le deuxième album, Diona, il a dit, ça m'a fait rire, on a construit un studio dans une maison en Allemagne. On n'a pas vraiment construit, on a loué une maison. Ouais. Et puis on a pris des micros et des tables de mixage et des enregistreurs à bande. Et puis, ben, dans une chambre à coucher, on a mis la batterie. Dans la cage d'escalier, on a mis des amplis de guitare avec des baffles. Et puis, dans la chambre de Louis, on a fait une régie. Donc voilà, c'était comme ça qu'on a construit un studio. On n'a pas construit des murs, puis on n'a pas fait venir d'acousticien, quoi. Mais du coup, ce disque-là, ben là, on l'a écrit, enregistré, presque mixé sur place. Donc il avait ce côté, c'était 30 jours comptés, puis il fallait qu'on ait un disque en boîte. En partant de peut-être deux riffs de Jonah, vaguement. Donc voilà, il y avait ce côté très urgent, ce qu'on a aussi essayé de reproduire sur le troisième, et on s'est rendu compte à ce moment-là, si on peut parler de faiblesse, que ben, ça devenait un processus un peu pénible, et puis c'est là que ça nous a donné envie, avec Odd Love, de vraiment écrire, prendre le temps d'écrire un disque, travailler avec quelqu'un qui vient faire la prise de son, mettre aussi un petit peu, se débarrasser de toutes les casquettes, puis mettre un peu les clés, faire confiance à d'autres gens, pour travailler en fait avec eux, et puis leur expérience du métier, et puis pas juste nous y aller exactement comme on voulait, et puis avec ce qu'on savait faire, c'est-à-dire se faire exactement sur le tas, quoi.
D'accord, ok. Bon, ça, c'est l'âge de la maturité, hein. Les décisions. dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet du dernier. Vous avez fait plusieurs splits. Quelle importance accordez-vous à ces partages de disques, et qu'est-ce que ça vous a apporté?
Bon, le concept des splits, il a plusieurs effets, il y a plusieurs bénéfices. Déjà, le fait de connecter avec des gens et des artistes que t'aimes, enfin dont tu te sens proche musicalement. Et puis d'autre part, donc ça fait toujours plaisir de bosser avec des groupes de d'amis, tu vois, avec qui on a tourné ou avec qui on s'entend bien musicalement, et on se dit tiens, ça serait trop cool de faire un truc ensemble. Donc ça, c'est vraiment le côté basique de la chose, basique humain. Et puis aussi les EP et les splits, je pense que c'est hyper important pour l'expérimentation, tu vois. C'est-à-dire que c'est moins engageant qu'un album. Du coup, tu peux te permettre des choses peut-être auxquelles tu réfléchirais 15 fois plus si c'était un album. Puis ça nous a permis aussi de faire, tu vois, on a fait un split avec ce groupe suisse qui s'appelle Abraham, qui est fantastique. Pas le split, mais le groupe. Mais le split, il est aussi bien. Et puis ben là, typiquement, on a cristallisé un peu cette collaboration avec l'ancien guitariste de Baroness, qui on avait tourné avec un autre de nos projets, et qui Baroness, donc, est un groupe qui avec qui on avait joué avec Cold Guns aussi, qui appréciait Cold Guns. Et puis du coup, ben, on a fait tout un morceau qui finit avec plein de solos de guitare de Pete, de Baroness. Et ça, c'est un truc que je pense pas qu'on aurait fait sur album, parce qu'au niveau de la sonorité, c'est peut-être pas quelque chose auquel on aurait affilié Cold Guns de base, tu vois. Mm. Puis ça nous a dit, ah ben, que c'est des trucs que tu peux faire sur des splits. Donc je pense que c'est une vocation un peu expérimentale, puis ça te permet aussi de ventiler un peu des idées avant d'embrayer sur un album, quoi. D'accord. Enfin, ça, c'est ma vision des choses, ouais.
D'accord.
Ouais. Rien à ajouter. Je suis d'accord avec ça.
D'accord. Alors, donc, 22 novembre, doit sortir Odd Love. Avant de se lancer dans un nouvel album, j'imagine qu'on en discute un peu, qu'on réfléchit chacun de son côté, et qu'en final, on décide ensemble qu'on peut partir dans une ou des directions. Est-ce que vous pouvez me raconter ce processus de départ, là, comment ça a fonctionné cette fois-ci, puisque de toute façon, visiblement, vous avez décidé de modifier un petit peu les choses?
Ah bah ouais, à fond. Et Lucas, moi, je serais assez curieux d'avoir ton avis là-dessus, comme ça.
Alors, effectivement, c'est un peu un album Covid, en fait, parce que le Covid, bien sûr, nous a coupé les jambes. On avait plein de projets pour 2020.
Ouais.
Et puis... la bonne chose à en tirer de ça, donc Jonah qui porte aussi beaucoup de casquettes au sein du groupe, notamment au niveau du management et puis de la synchronisation entre tous les gens qui travaillent autour de ce groupe, lui il fait le maillon avec nous, en plus de gérer le label et tout ça, là tout d'un coup tout s'est arrêté, donc ça lui a donné du temps, ouais. Ce qu'il n'a pas souvent. Alors il a pu en fait vraiment, vu que le but c'était un petit peu de travailler différemment et moins dans l'urgence, il a vraiment pu se poser à la maison, se faire un setup de guitare et puis écrire en fait ce disque, en tout cas une grosse partie de ce qu'allait être ce disque. Mmh. Et puis ensuite, il en est découlé qu'il nous envoyait, ça s'est fait un peu naturellement, on s'est dit tiens, on peut travailler comme ça, pas tous dans le local en même temps, mais par contre chacun dans son coin, on fait sa petite cuisine, moi il m'envoyait des riffs, je faisais des pré-prod à notre local, sur ma batterie, que j'adaptais, puis du coup je réarrangeais un peu des parties, et puis ensuite Louis est venu mettre son grain de sel. Je dirais, il n'y a pas eu énormément de discussions, on avait bien sûr parlé de faire un album différent de ce qu'on avait fait avant, dans le processus, dans la manière d'écrire, dans plein de choses, mais ça s'est fait après de manière assez naturelle, puis un peu en se prenant en fait le Covid dans les dents, j'ai l'impression, parce que Jonah, ça t'a donné quand même beaucoup de temps pour te poser, puis écrire des riffs, puis avoir un peu du temps pour faire ça dans tes journées. Dis-moi si je me trompe. Mais...
Non, c'est juste... j'avais... Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais prévu de passer un petit peu de temps à la maison. Donc, je venais d'installer un home studio 2-3 semaines avant le Covid. Et du coup, j'ai pu passer beaucoup plus de temps que prévu. Et ça a été évidemment déterminant parce que on n'avait jamais fait ça. Puis que là, du coup, puis qu'on n'avait jamais vraiment travaillé trop tout seul dans son coin aussi. Puis le résultat, il est quand même... assez loin de ce qu'on a fait jusque-là. Et puis ça par contre, c'était une volonté, c'était un truc qu'on avait discuté, mais qui était assez vague. C'était un peu... Tu vois, on a sorti le dernier disque en novembre 2019, on a fait une tournée, puis après cette tournée, on s'est dit... Ah, on a senti qu'on arrivait à un certain plafond, que ce soit en termes de fréquentation des concerts, aussi de nos propres connaissances techniques pour faire des disques, puis du processus qu'on avait effectué jusque-là, comme Luc le mentionnait tout à l'heure. Et donc, il y avait un peu des discussions de dire, comment est-ce qu'on fait une sorte de next step? Et puis, puis quand je parle de prochaine étape, je ne parle pas de l'étape de conquérir le monde, mais qu'est-ce qu'on fait comme prochaine étape dans notre vie de groupe, quoi, ensemble, pour faire quelque chose de nouveau? Et en fait, après, effectivement, ça s'est fait naturellement, parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, il faut quand même dire qu'on avait plein de tournées prévues, on n'aurait jamais eu le temps de faire ce qu'on a fait. Puis en fait, ça nous a évidemment déprimés, tu vois, comme tout le monde, mais c'était la même chose pour l'entièreté du monde. Puis en fait, le management avec qui on bosse, c'était là, en fait, c'est simple. Vous avez le temps, profitez de faire un disque, puis pensez pas au reste. Puis du coup, on a fait ça. Et c'est vrai que ce disque, grâce à ça, on a pu affiner la façon dont on voulait faire les choses, le propos, pourquoi on voulait faire ça aussi, pourquoi on voulait faire un disque comme ça. Et puis, on a pris vraiment beaucoup de temps. On l'a enregistré au moins 3 fois en entier, déjà au local. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas 2 fois en pré-prod.
Pas loin.
Je veux dire, on est allé, y a des morceaux, on est allé les écrire en club avec un système son allumé pour voir comment ça sonnait directement en live. On a fait des semaines de répète où on répétait ces morceaux comme si on allait les jouer en live juste pour les dénuder puis aller chercher la bonne intention pour les jouer. Enfin, c'était vraiment un processus. On a pu aller dans des détails. On a pu aller hyper profond dans les détails et voilà. Et on a décidé de casser à travers ça, de casser nos propres codes. Et ça se traduit dans la musique d'une part, mais ça va même jusqu'à l'artwork de l'album, tu vois. Mmh. On a vraiment décidé de faire un espèce de virage dans notre petit monde, quoi, on va dire.
D'accord. Est-ce que quand on commence comme ça à créer, là, est-ce que des fois ça s'accroche un peu là, entre les idées des uns et des autres, ça se confronte un peu ? Ou est-ce que ça file droit, en fait, assez naturellement ?
Ben bien sûr, ça arrive, et puis c'est un peu le but du game, j'ai l'impression, quoi. Mmh. En fait, que chacun, un peu, après, y mette du sien, puis que ça s'accroche, puis ça crée un peu des... Moi, j'aime bien ce truc, moi, j'aime bien plutôt celui-là. Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que ça fait un peu partie du jeu, quoi.
Mmh. D'accord.
Oui, puis en plus, on est dans une dynamique, y a pas de... Enfin, comme on l'a dit en introduction avant, ce groupe régit nos vies musicales, mais aussi nos vies tout court. Mmh. L'entièreté de nos vies tourne autour de ce groupe, donc c'est impossible de pas être d'accord sur chaque note qu'on joue, en fait. Mais et ça peut paraître tout d'un coup ça pourrait paraître compliqué, où on se dit waouh, en fait ça doit être un processus hyper complexe, des prises de tête dans tous les sens, mais en fait ça l'est pas tant que ça. On n'est pas d'accord sur des trucs des fois, puis quand on n'est pas d'accord on en discute de temps en temps, il y a un peu l'ego qui est blessé d'un ou de l'autre, mais ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble et qu'on s'aime que on en discute, puis finalement, quand on n'est pas d'accord sur un truc, ben on le vire, puis on fait quelque chose de mieux derrière, quoi. D'accord. Donc ouais, il y a des frottements, mais je les ai jamais trouvés... ça n'a jamais été des gros éléphants dans une pièce, quoi, disons.
D'accord. Vous pouvez m'expliquer ce titre, Odd Love ? Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous ?
Plus personne pour répondre.
Ah, parce qu'on vous a déjà posé plein de fois la question, quoi. Sinon, on peut passer à autre,
non,
à autre
bah,
chose.
Non,
mais c'est pas un souci.
Non, non, écoute, c'est-à-dire que, pardon, c'est-à-dire que c'est aussi, on a fait avec Louis, donc, qui écrit les paroles et qui définit les titres, c'est aussi quelque chose dont on a forcément discuté, tu vois. Après, ben, Louis, il a aussi une façon pas forcément littérale d'approcher ses textes et tout ça, donc il a un peu, même lui, quand il nous explique ses paroles et tout ça, c'est toujours, il y a toujours une volonté de le laisser libre à interprétation. Après, si tu veux, une analyse, par exemple, ce serait de dire, ben, on fait cette musique qui est quand même méga frontale, qui est taxée, tu vois, qui est de la musique qui est beaucoup jouée par des garçons, qui a une énergie un petit peu musclée comme ça. Puis nous, c'est un petit peu, on est complètement à l'inverse de ça. Et du coup, on avait aussi envie de véhiculer un truc, ça nous a kiffé d'avoir le mot amour dans le titre, tu vois. Mmh. Et donc, la traduction littérale, c'est étrange amour. Et puis, c'est quand même finalement, parce que c'est les paroles de Cold Guns et puis tous les textes sont quand même vachement orientés sur nous, parce qu'on n'a pas de... Voilà, on vient pas de la banlieue de Manchester, on vient pas de la banlieue de Détroit, on n'a pas de revendications sociales hyper... Enfin, voilà, on est né en Suisse, on vient de famille relativement aisée, enfin, on n'a pas eu... On a eu nos problèmes, évidemment, mais comment dire, on n'a pas ce bagage de punk d'Angleterre des années 70, tu vois. Et du coup, ça parle beaucoup de nous, en fait, les textes de Louis et tout ça, notre rapport au monde, etc. Puis finalement, ben, le titre de l'album, c'est aussi une façon de résumer un peu notre rapport à notre musique, à notre entourage, au business de manière générale, et puis à notre vie, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, c'est un truc bizarre, quoi. C'est de nouveau lié à ce groupe qui régit la plupart de notre vie, ça fait quand même gentiment 12-13 ans qu'on fait ça. On sait pas trop pourquoi on le fait, mais en fait on continue de le faire, puis en fait on est bien dedans, puis on se sent bien, tu vois. C'est vraiment, c'est tout ce rapport un peu étrange, l'amour qu'on se porte les uns aux autres et puis qu'on porte à ce groupe, quoi.
Ouais, je suis d'accord un peu sur le côté de... C'est une situation qui est un peu étrange de se mettre dans cette situation-là, mais en fait, elle est safe et elle est confortable. Ben, moi, c'est un peu comme ça que je le vois pour très résumer tout ce que tu as dit. Je suis d'accord avec toi. Mais qu'en fait, oui, aussi par rapport au monde, mais par rapport à comment on est au sein de ce groupe, par rapport à ce qu'on exprime avec notre musique. Et puis justement, je vois ça, ce titre, moi aussi, il résonne comme ça, un amour étrange, de se mettre dans une situation qui pourrait paraître inconfortable, mais qui est en fait aussi un endroit, en tout cas pour ma part, très safe, très, 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 très rassurant, avec des gens très rassurants. Et puis, voilà, à faire en fait aussi s'exprimer avec de la musique qui peut être très violente. Et puis, mais en fait, c'est quand même un petit cocon tout doux, quoi.
Oui, c'est ça.
D'accord. Par rapport au texte de Louis, vous en parlez à chaque fois ou c'est lui qui vous balance un texte directement? Est-ce que vous discutez des thématiques avant que vous voulez aborder, que vous voulez qu'il aborde?
Non, c'est plutôt lui qui a enfin, il me semble que c'est plutôt lui à la base, enfin, qui nous soumet des idées. D'accord. On a toujours, bien sûr, l'option de dire qu'on est d'accord ou pas, mais personnellement, je trouve que c'est là qu'il voit qu'on se connaît bien, et puis qu'il cerne bien le groupe, et puis ce qu'on est, et puis ce qu'on a un peu envie de dire, parce que, enfin, moi, j'ai jamais dû contester quelque chose qu'il avait envie de dire, ou un sujet qu'il voulait aborder dans un morceau, en tout cas, quoi.
D'accord. Vous faites une étude des textes, une fois qu'il les a écrits? Il vous explique, il vous...
Une étude des textes, pas, mais on a fait, justement, quand on se préparait à aller au studio, on a fait le tour des textes, je ne sais pas si tu te rappelles, Lucas, d'ailleurs.
Ouais, bien sûr. Ouais.
On a passé tous les textes en revue ensemble, dehors, au soleil. Et puis, Louis nous expliquait si on avait des questions, nous expliquait un peu le concept, de quoi ça parlait. Aussi, parce que Louis, c'est quelqu'un de très, très complet dans sa façon d'aborder les choses, donc ce n'est pas juste « Ah, j'ai une idée de thème, je vais en parler », c'est « Il écoute la musique, il voit ce que ça lui inspire, ce que l'instrumentation lui inspire en termes de d'atmosphère. » Après, il va faire plein de recherches sur plein de choses. Ça peut lui faire penser à des machines, ça peut lui faire penser à des processus ou à des concepts philosophiques bizarres de je sais pas quelle décennie. Et puis, il va mettre ça en lien avec... parce que le but, c'est toujours de parler un peu de nous, notre vision, notre rapport à tout ça. Donc, il va mettre ça en lien avec le bled d'où on vient, son histoire. Et puis, tout d'un coup, ben, ça, il prend des textes, c'est quand même assez complexe. Et puis, là, je pense qu'une grosse différence avec les disques précédents, c'est que du coup, il a continué à faire ce même processus, mais il a essayé de simplifier aussi son langage, son approche, puis qu'on ait des paroles un peu plus slogans qu'avant.
D'accord.
Et voilà, et on a passé tout ça en revue, mais la conclusion, c'était qu'il explique des trucs, puis il est là, ouais, c'est clair dans ma tête, mais ça, pour moi, c'est pas un truc que je souhaite forcément vous expliquer de A à Z, parce qu'il faut que ça reste aussi libre à interprétation. Ouais, quoi.
D'accord.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'écrit aucune parole en jeu. Voilà.
D'accord. Qu'est-ce qui vous paraît être la force principale de ce disque? Qu'est-ce qui... parce que, bon, ce qu'en percevront les gens après, c'est une autre chose. Mais vous, là, quand vous l'écoutez, si vous le réécoutez, dites, qu'est-ce qui est sa force?
Ouais. Bah, voilà, en tant qu'insider, si tu veux... Enfin, pour moi, c'est quand je l'écoute... Je ne l'écoute pas comme si j'étais du public, évidemment. Enfin, un auditeur, une auditrice. Moi, je l'écoute, puis ça me rappelle l'expérience que ça a été de fabriquer ce disque au moment où on l'a fait. Donc, toute cette histoire de Covid, la façon dont... des discussions qu'on a eues sur le groupe, la façon dont ça régit maintenant nos vies d'avoir fait ce disque comme on l'a fait, l'expérience que ça a été de faire une semaine de route ensemble jusqu'au fin fond de la Norvège sur une petite île pour passer 3 semaines en studio... avec mes meilleurs amis, quoi. Donc moi, la force, elle est dans le fait qu'il est cohérent humainement, si ça a quelconque sens de dire ça, quoi. C'est un disque qui a été fait avec des gens qui sont de la famille, presque. On a pris des instruments, on est allé à moitié à l'autre bout du continent pour l'enregistrer, puis tout ça sans savoir si quelqu'un en aurait quelque chose à foutre, tu vois. Donc, moi, c'est ça que j'entends, puis c'est là où je trouve qu'il est fort, ce disque, quoi. Après... on pourrait parler du son, on pourrait parler de ces trucs, mais pour moi, c'est moins important, parce que j'ai l'impression qu'au final, c'est ça qui fait aussi ce genre de détails d'intention qui vont faire la différence au niveau des auditeurs et auditrices, quoi.
D'accord.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Jonah, et puis effectivement, moi, je trouve que c'est avec toutes les années, et puis par toutes les étapes qu'on est passées pour faire chaque disque, ben, je trouve qu'ils ont, avec tout ce qu'ils sont différents, ils ont tous, je reviens aussi beaucoup à la force. Enfin, en tout cas, comme je l'entends, comme tu le dis, Yann, le côté de groupe, puis d'humainement cohérent avec nos valeurs, et puis ce qu'on veut transmettre, comment on a écrit la musique, ce qu'on a joué. Et puis ensuite, ben pour moi il y a aussi un point qui fait que ben c'est l'habillage quoi. Quand on commence à mettre l'artwork, quand il commence, en fait toutes les chansons elles tiennent entre elles, tout d'un coup elles ont un ordre, ensuite elles racontent une histoire, ensuite le disque raconte une histoire, puis ensuite quand il y a vraiment l'habillage, moi je trouve toujours fou de tout d'un coup l'écouter en regardant la pochette, puis en étant là, ah, ça a pris encore plus de masse quoi, de sens, parce que en fait c'est tout est interpensé ensemble pour que ça fonctionne, et puis ben voilà, moi je pense un peu ça, puis en fait en revenant sur chacun de nos disques, ben il y a un peu ce truc de, en fait on a beaucoup changé, on est passé par beaucoup d'endroits, mais il a toujours cette force, cette cohésion de ce qu'on est comme en tant qu'artiste, puis en tant qu'humain, ensemble les uns pour les autres, et puis ça donne ça, et voilà, moi c'est ça qui me fait assez vibrer. Mmh. De nouveau, avec un œil depuis l'intérieur du groupe, bien sûr. Quoi.
D'accord. On va s'écouter un deuxième morceau, il s'agit de Caravel. Vous avez quelque chose à dire sur celui-là?
Ah. Lucas, ouais.
Alors moi, c'est perso un morceau que j'ai mis du temps à me mettre vraiment dedans, à être d'accord avec. Et puis pour pas répéter de nouveau pendant une heure tout ce que je viens de dire avant, ben pareil avec la force du groupe, de l'ensemble du travail, de des voix, de l'arrangement, de prendre le temps, en fait. C'est nouveau, on peut dire ben moi je suis pas à l'aise avec ce morceau, ou je suis pas cool, ou je trouve pas le truc, et puis ben plutôt que dire bon ben nous les autres on est tous d'accord avec, donc tais-toi et puis t'as qu'à le jouer, et puis c'est comme ça, et puis maintenant on sort ce disque, ben il y a toujours on prend le temps d'aller le bosser, ça demande un effort à chacun, et puis en tout cas moi ça m'a demandé un effort y compris, puis plus ça avançait ben plus j'ai pu m'approprier ce morceau, puis en fait au final ben je trouvais qu'il était hyper réussi, et puis je crois que ben aussi c'est un des morceaux maintenant comme en fait tous sur ce disque que je me réjouis de jouer une fois en live quoi.
OK, bon ben on va se l'écouter, puis on se retrouve juste après pour une dernière partie.
Yeah!
Voilà, donc un deuxième morceau extrait de Odd Love. Il s'agissait de Caravel à l'instant, disque donc de Coy Guns. Messieurs, vous avez enregistré tout ça avec qui, en fait? Et puis, éventuellement, pourquoi ce choix? Et puis, est-ce qu'il y avait des consignes? Est-ce que la personne avait des consignes? Et dernière question, est-ce qu'éventuellement, les personnes qui vous ont aidé pour enregistrer tout ça vous ont amené vers des territoires où vous ne pensiez pas forcément aller?
Ouais, bah, il y a eu forcément un peu de tout ça. C'était la première fois qu'on travaillait avec quelqu'un déjà pour l'enregistrement. Donc là, on a vraiment fait les choses. On s'est dit, bon, déjà, on va dans un studio dans lequel on rêvait d'aller. C'est déjà un truc. Pour se libérer de la casquette technique, on s'est dit, on va engager quelqu'un. Mais plutôt que de prendre quelqu'un, juste quelqu'un, bah, on a fait venir Scott Evans, qui est un producteur, un gestion américain, qui joue dans un groupe qui s'appelle Kowloon World City et qui avait produit qui a produit plein de disques et que tout le monde aimait bien son esthétique, quoi. Mmh. Et donc, on l'a fait venir de là-bas spécialement pour s'occuper que de la technique. Puis, maintenant, si on dit qu'il a fait que de la technique, mais en fait, il est venu avec tout un tas de pédales d'effet, avec tout un tas d'idées, de façons de faire. Donc, peut-être Luc saura peut-être en dire plus là-dessus. On a clairement, il y a des parties même qu'on a réécrit en studio sous son impulse où il était là, ça c'est pas si super, je suis sûr que vous pouvez faire mieux, tu vois. Donc voilà, puis le but était évidemment de nous libérer de toute considération technique, puis aussi d'avoir affaire à simplement une autre façon d'envisager l'enregistrement avec quelqu'un qui a un charisme assez, assez fort, puis une expérience énorme là-dedans, quoi. Donc c'était la première fois qu'on bossait avec un Américain en studio, quoi. Et ça, c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose d'art. D'avoir Scott qui était un... Ouais, c'est une autre façon de bosser que les gens avec qui on avait bossé jusque-là, quoi. De manière générale. C'est vraiment une autre éthique de travail. C'est vraiment un acharné qui va au bout des choses, de tout, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu la globalité. Mais...
Et c'est vrai, c'est vraiment une encyclopédie. Enfin, ça, il vient avec tout le package... comme disait Jonah, alors il a donné plein d'inputs, de conseils. C'était jamais, il n'y avait pas, comme tu as dit tout à l'heure, des consignes ou je sais pas. Il n'y a jamais eu de moi je travaille comme ça, donc on va faire comme ça, sinon je me casse ou bien sinon ça me convient pas. C'était tout le temps lui disait moi je vous propose des chemins, des solutions, des idées. Tout était tout le temps débattable. Et puis on pouvait juste ne pas les utiliser puis lui dire nous on veut faire ça. Enfin lui, c'est vraiment. C'est aussi une de ces personnes qui travaille et puis il est vraiment, il se met au service du groupe, c'est-à-dire qu'il se met pas, il vient pas dire je suis un génie puis maintenant ça va être super, mais il a un énorme bagage puis des connaissances pour se mettre à 200% au service du groupe et puis c'est ça, c'est vrai, il l'a fait, il s'est vraiment mis à 200% au service du groupe et je pense qu'il nous a fait aller un peu dans des territoires inconnus pour nous. Je pense notamment. On va dire le rig batterie, on n'a pas pris énormément de risques, on a fait beaucoup de pièces dans la pièce principale, des prises un peu en one shot pour avoir un peu de fraîcheur au niveau des prises de batterie. On a fait 2-3 installs un petit peu pour des morceaux, pour des passages qui nécessitaient un petit peu plus de créativité et puis de technique et puis tout ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup, une grosse partie d'enregistrer par exemple les parties guitare et puis lui qui est un très bon guitariste. Qui connaît tout le matos, alors il n'hésitait pas à aller brancher tous les amplis qu'il a trouvés dans le studio, mettre des pédales, tout rechanger, tout renverser dans un autre sens de nouveau, tout ça pour des fois une partie, ce qui faisait que Jonah il se retrouvait à jouer une partie des fois pendant des heures et des heures et des heures à essayer des trucs et des machins. Et puis pour ça, c'est vrai que lui, il est jamais sans ressources, et puis tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, il ne s'arrête pas. Et c'était appréciable de travailler avec quelqu'un comme ça, autant dévoué. Alors on le payait bien sûr, mais autant, faut pas déconner. Mais je veux dire, ça vaut tous les centimes, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant de voir des gens comme ça dévoués et qui ont une telle culture et une telle connaissance et en électronique et dans les sons et dans la prise de son, dans les micros, dans tout. On pouvait se reposer sur lui à 200%. Et puis, quand bien même, il refusait jamais des propositions qu'on faisait, des trucs. Bien sûr, il y avait plein de manières d'enregistrer dont nous, on avait pris l'habitude, des petits trucs, des petits machins, utiliser tel micro pour ci ou ça. Et puis, on a aussi pu utiliser ça en lui proposant. Enfin, ça a jamais été une barrière, tout ça. Donc oui, c'était vraiment une super expérience. Et puis, il nous a amené dans des coins qu'on connaissait pas. Et puis, en fait, je pense qu'on a appris beaucoup de choses avec cette personne, quoi. Donc,
ça transforme un groupe collectivement et ça transforme les individus aussi, les expériences de studio.
Ah ouais, clairement, ouais. Mmh. Enfin, je veux dire, moi, c'est une des meilleures expériences de ma vie, quoi. Puis pas juste parce qu'on était dans un studio super au bord de l'océan, mais aussi parce que cette expérience humaine, quoi. Mmh. C'est de travailler, travailler avec quelqu'un comme Scott, qui effectivement, tout d'un coup, un élément externe, on le connaissait pas, on avait fait 3 zooms avec lui, puis d'un coup, il débarque dans notre intimité, dans notre vie. Faut aussi dire qu'on avait un vidéaste qui nous accompagnait pour documenter tout ça, donc on était quand même une équipe de 6 personnes. On vivait ensemble, on dormait dans le studio. Enfin, il y avait de quoi héberger les gens. On travaillait sous le soleil de minuit, donc en fait, le soleil se couchait jamais. Donc, on cuisinait beaucoup, on parlait beaucoup, on se baignait. Enfin, tout était, c'était vraiment, c'était une expérience complètement hallucinante, quoi, en termes humains. Puis d'avoir une connexion si forte avec quelqu'un qu'on laisse rentrer dans notre intimité, qui était Scott, qui arrivait quand même des fois avec ses gros sabots, avec ses grandes boxes à l'américaine, où il était là, nous, on avait l'habitude de peut-être tout d'un coup garder trop de prises ou je sais pas quoi. Lui, c'est effectivement, on essayait tout, on passait toutes les options en revue, mais si ça fonctionnait pas, c'est on gardait pas au cas où. C'était OK, on fout loin. Il voulait garder le moins de choses possible, quoi. Il y avait un rapport tellement immédiat qu'en fait, effectivement, il connaissait tout sur tous les micros et tout, mais quand il fallait essayer un truc, ça, je sais pas si tu te rappelles, Luc, mais c'est, j'en parlais avec Kevin, justement, qui lui a été choqué, Kevin, le bassiste, qui est aussi ingénieur du son, et qui était choqué par cette façon de faire, où, ben, des fois, il privilégiait plutôt de prendre le micro qui était le plus proche de lui, pour qu'on perde pas de temps, puis qu'on continue à rester créatif et dans le flux de faire de la musique, quoi.
Ouais, c'est juste,
Donc, c'est assez marrant, parce qu'il a vraiment tous ces paradoxes, puis en même temps, ben, il pouvait, c'était, comme disait Luc, une encyclopédie de tout le matériel qu'il y avait là, quoi. Et c'était, moi, ça nous a vraiment changé. Puis je pense que pour le prochain disque, on a clairement plein de choses qui ont changé dans notre cerveau sur la façon de faire et la façon de faire de la prise de son pour le prochain disque. Au-delà de la transformation, moi, humaine que ça a créé, quoi. Chez moi,
D'accord. On va se quitter sur une dernière question. Est-ce que éventuellement, même, ça vous a donné d'autres pistes pour la suite? Ce travail avec lui?
Ah ben, carrément, ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça nous a donné, ça nous a ouvert, ça nous a ouvert aussi les yeux sur plein de choses qu'on ne voyait pas. C'est pas qu'on les aurait jamais vues, mais vu qu'on travaillait de notre manière, à notre manière, nous, puis toute notre cuisine était complètement interne, ben moi, je pense que ça a permis de voir plein de nouvelles choses pour envisager le prochain disque. En tout cas, personnellement, puis même au niveau du groupe, je pense que justement, c'est ce que ça a amené, cette expérience, à ce groupe pour la suite, quoi.
D'accord.
C'est ça. Ça veut pas forcément dire qu'on va bosser avec lui pour faire le prochain disque. Mais déjà, moi, ça m'a donné envie de rebosser avec lui, ça l'a dit, que ce soit clair.
C'est clair, ouais.
Et parce que finalement, lui aussi, ce qu'il fait, il fait aussi du mix. Et c'est pas à lui qu'on a donné le mix. Et on a deux titres quand même qui nous restent de cette session de studio. Et c'est vrai que ça donnerait envie, vu qu'il a enregistré ses titres d'une fois, de voir ce que ça donne quand il enregistre et mixe, quoi. Enfin, on l'a déjà entendu sur d'autres disques et franchement, ça défonce, quoi.
Ça va vraiment bien.
OK. Alors, où est-ce qu'on... Il y a des précommandes qui sont lancées ou il faut attendre le...
Les précommandes sont lancées, vinyle, CD, t-shirt, la totale, quoi.
Ouais.
Disponible donc en Suisse sur le site du label humusrecord.com, mais comme on le sait bien, les frais d'envoi depuis la Suisse, c'est chiant, donc on a aussi, il est aussi disponible en France à travers le webshop deathwish.eu.
D'accord.
Voilà, pour les connaisseurs, c'est... Voilà. Enfin, en gros, si vous cherchez Cold Guns Odd Love, il y a tous les liens. Il est disponible directement en France et chez votre disquaire préféré, évidemment, aussi à partir du 22 novembre. Voilà.
D'accord. messieurs, il me reste à vous remercier pour cette interview très, très intéressante, je dois dire. Donc, je sens que ça a bien travaillé et puis ça a surtout bien réfléchi chez vous sur le projet. Donc, ça, c'était super cool. Voilà. Un grand merci à vous.
Merci à toi.
Eh bien, le plaisir, merci à toi d'avoir pris le temps, c'est clair.
Puis, sait-on jamais, peut-être que je vous verrai en France d'ici là, après le 22 novembre, on ne sait jamais.
Ah, Alors ça, c'est sûr, l'année prochaine, tu vas nous voir en France. Ouais. C'est, tout ouais. est bien en cours, là. T'inquiète pas.
On va beaucoup, oui.
Ok, mais on suivra l'affaire. Merci beaucoup, messieurs.
Yes, merci beaucoup, Allez. Yann.
Salut. Ciao, ciao.
Salut.
Koi Guns à l'instant, Generic Skincare, c'est donc le dernier morceau que nous avons écouté. Voilà, donc un grand merci à nos deux interviewés, Jonathan et Lucas. Voilà, c'était donc tout à l'heure en interview, une interview, ma foi, fort intéressante, comme vous avez pu vous en apercevoir. Et voilà, l'interview est à l'image de l'écoute du disque. Voilà, vous en apercevrez, je vous invite vraiment à découvrir cet excellent album. Vraiment, au niveau du son, c'est terrible, au niveau de la composition, c'est terrible. Vraiment, c'est une grosse claque pour moi. Voilà, il est temps de se quitter dans Electric Troubles. On va se quitter sur Vincent Rees. Je crois que c'est chez Drunken Sailor Records. J'espère que je ne me trompe pas. De Californie, Napoléon, c'est le titre du morceau. Le disque, c'est un EP, c'est Mean Streak. Et c'est sorti tout récemment. Voilà, j'ai récupéré ça il y a peut-être une ou deux semaine. Voilà, on se donne rendez-vous à samedi pour la playlist Electric Troubles, donc avec deux autres morceaux de l'album de la semaine du groupe demain. Et puis la semaine prochaine, une interview aussi, et ce sera une surprise. surprise, voilà, parce que surprise dans le sens où je ne sais pas encore qui ce sera. Allez, ciao, bye bye, et encore merci d'avoir écouté Electric Troubles Radio Show, vous êtes sur Radio MDM.
Na 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 na